Chapitre 17. Le lendemain après-midi, il sortit avec l'intention de se rendre chez le professeur Peix. C'est une visite tout indiquée en cette circonstance. Je lui demanderai 200 francs. Le moment ne peut être mieux choisi. Mais en cours de route, il changea d'avis. La perspective d'une conversation avec une autre personne qu'Émilie lui causait une appréhension affreuse. En sortant de chez lui, il avait aperçu le concierge sous la voûte. Pour n'avoir pas à simplement le saluer, il était resté plusieurs minutes dans l'escalier à faire semblant de chercher quelque chose dans son portefeuille. J'aurais dû me douter que je n'irais pas chez le professeur. Cela m'aurait épargné tout ce voyage, dit-il en arrivant boulevard Raspail. Il alla flâner au Luxembourg. De temps en temps, il s'arrêtait pour regarder jouer les enfants. Des parents lui souriaient. Il leur parlait. S'il avait horreur de parler aux gens de son entourage, il éprouvait un grand plaisir à parler à des inconnus. Ils avaient l'amour-propre de montrer qu'ils étaient sensés, équitables. Des généralités échangées émanait le désir si humain et si réconfortant de s'accorder. Lesca se sentait inoffensif. Il n'était plus un comédien. Toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient vraies, droites, généreuses. Une grande confiance en lui l'envahissait. Il était après tout le brave homme à qui les mères de famille souriaient. En doutait-il donc ? On peut avoir lutté au cours de sa vie sans être pour cela un homme suspect. Ce qui s'était passé la veille était normal. Il pouvait être fatigué. Ses mères de famille l'eussent très bien compris. Évidemment, il aurait dû aller hier rue Monge. Mais il n'avait pas pu et quand il y était allé, c'était trop tard. D'ailleurs, rien ne pressait. Madame Maz avait attendu 10 ans, 20 ans, il ne savait au juste. Comment pouvait-il supposer qu'elle s'impatienterait d'un retard de 24 heures, de 48 heures? Alors que 2 jours plus tôt, elle ne voulait même pas entendre parler de Don Guy. Tout à coup, la pensée lui vint d'aller la voir immédiatement, sans attendre une minute. Il la mettrait au courant de ce qui s'était passé. Il rirait, il parlerait d'autre chose. Au fond, cette histoire était sans importance. Madame Maz l'avait assez dit. Il resta pourtant encore un long moment à se promener dans le Luxembourg. Il marchait lentement. Chaque fois qu'il s'asseyait, il ne pouvait rester immobile, se relevait aussitôt. Enfin, il s'achemina vers la rue Monge. Dès qu'il se trouva à une centaine de mètres de la librairie, il comprit qu'il n'y entrerait pas, qu'il n'aurait pas plus la force de parler à Madame Maz que tout à l'heure à son concierge. Il eut même, un instant, le sentiment qu'il ne pourrait plus jamais parler à quelqu'un. Une profonde anxiété se peignit sur son visage. Un passant le regarda, comme cela se produit parfois, avec fixité. Il tourna la tête. Qu'avait pensé ce passant? Sortant de lui-même, il se vit dans cette rue sans pittoresque, pauvrement vêtu, courbant ses rudes épaules, tournant en dedans, sans le vouloir, son pied droit, avec son visage de fouine, très fin, un visage d'enfant sur un triple menton, un visage ravagé, au point que même rasé, il portait encore 1000 traces de flétrissures, des larmes de froid, des coupures, des gerçures, des peaux blanches séchées sur les lèvres. Des hommes semblables à celui-ci, il en avait jadis rencontré, mais sans y prêter attention, des hommes beaucoup plus vieux que lui, calés dans leur âge, dont il était impossible de savoir s'ils avaient été bons ou méchants. Aujourd'hui, il était devenu comme eux. Il regardait la librairie. Voici un an, quand il avait fait la cour à Madame Maz, il s'était trouvé, tout près de la librairie, dans la même impossibilité d'y entrer. Il était jaloux. Il avait surveillé la porte du magasin, depuis un petit café comme on en voit dans les tronçons de rue désertes, avec table et comptoir d'un mètre. Il s'asseyait contre la vitre, faisait le guet, comme tant d'hommes inoccupés. Il traversa la rue avec l'intention de passer devant la librairie. Mais Madame Maz regardait souvent dehors, à travers l'étalage, pour se distraire. Il n'osa pas. Il entra dans le petit café, resta debout. Il y avait de la lumière dans la librairie, mais une lumière inutile puisqu'il faisait encore jour. Gabrielle l'attendait. Quand il venait tous les jours, le magasin était éteint. Quand il en manquait un, Cette lumière, le lendemain, l'attendait. Au bout d'une heure, il s'en alla. « Je reviendrai, » dit-il. En arrivant chez lui, il comprit que son passage rue Monge n'avait pas été inutile. Grâce à lui, il rentrait sans crainte. Combien grand eût été son désarroi s'il n'avait pas passé une heure tout près de Madame Maz. Dès qu'il eut refermé sa porte, il se mit à trembler. Émilie n'était pas là. Il eut beau se dire qu'elle descendait tous les soirs à cette heure chercher son lait, il continua de trembler. « De quoi ai-je donc peur ?» se demandait-il. Le paquet se trouvait toujours à la tête de son lit. Il s'assit afin de ne faire aucun bruit et de pouvoir surprendre les moindres allées et venues. Soudain, la porte s'ouvrit. C'était Émilie. Il poussa un profond et silencieux soupir. « Ah, tu étais sortie, » dit-il. « Je suis allée chercher le lait. »« Pourquoi ai-je eu peur ?» se demanda-t-il encore. « As-tu réfléchi ? Tu recommences ? Je voudrais savoir si tu as réfléchi. À quoi ? Tu le sais bien, tu peux faire quelque chose en ce moment. Mais pour cela, il faudrait que tu le veuilles. Ce n'est pas difficile. »« Tu voudrais que je retourne à Bordeaux ?» demanda Émilie. « Oh non, surtout pas. Tu serais malheureuse là-bas. Et ton fils, tu ne voudrais pas vivre loin de lui. Tu ne le vois pas ? Mais tu sais qu'il est là, tandis qu'à Bordeaux... Alors quoi ? Puisque tu aimes ton fils, puisque tu l'adores, il me semble que cela devrait te donner du courage, de l'audace. Décidément, je ne te comprends pas. Tout à coup, Leska tendit l'oreille. Fais quelque chose, dit-il à voix basse en se dirigeant sur la pointe des pieds vers la porte d'entrée. Qu'as-tu ? Demanda Émilie. « Tais-toi. Est-ce que tu n'entends pas marcher ? On monte, il me semble. Est-ce qu'on monte ? Qu'est-ce que cela peut te faire ? Rien. » Il s'appuya contre un mur. Il passa très vite, à plusieurs reprises, son pouce sur le bout de ses doigts. On entendait en effet comme un bruit de pas, mais ce bruit ne se rapprochait pas. « On ne monte pas, » dit Émilie. « Qu'est-ce que c'est, alors ? Un bruit dans un appartement. » Leska revint près d'Émilie. C'est un bruit de pas, dit-il. Tu entends bien ? Boum, boum, ce sont des pas. Émilie se demandait ce qu'avait son frère. Elle le regardait comme si, dans une situation périlleuse, il était tombé malade. Les bruits viennent certainement de l'atelier du troisième. Tu entends bien qu'il ne se rapproche pas, ni qu'il s'éloigne. « C'est vrai, » dit Leska en se calmant. « Il se rapprocherait que cela n'aurait d'ailleurs aucune importance. » Un journal traînait sur une chaise. Il le posa sur la table, s'assit. Émilie s'était retirée dans sa chambre. « Une chose m'ennuie, » dit-il peu après. « Tu ne comprends jamais ce que je te dis. »« C'est qu'il n'y a rien à comprendre, » répondit-elle. « Je parle clairement pourtant. » « Je te dis de faire quelque chose. »« Oh, ne recommence pas !»« Fais quelque chose. Jamais tu ne trouveras un meilleur moment. »« Tu veux que j'aille à Noyon ?»« Non, non. Il faut que tu sois indépendante. Tu peux l'être. Cela ne dépend que de toi. Tu n'as qu'à vouloir. Tu es donc incapable de vouloir. Alors, ce n'était pas la peine de faire toutes ces histoires avec ton fils. » Tu dis tout le temps que je joue la comédie. C'est toi qui la joues. Dans le fond, tu es bien contente de ne plus le voir. Tes sacrifices, tu as trop parlé de tes sacrifices. » Émilie parut dans l'embrasure de la porte. « Tais-toi, » dit-elle. « Si tu continues, je vais écrire à Monsieur Pex. »« À Pex ? Mais écris-lui. Je ne demande que ça. Il te parlera comme je te parle. Il faut faire quelque chose, Émilie. » « Toi, tu dois faire quelque chose. Tu le peux en ce moment. Enfin, tu ne me comprends pas. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu dois. Tu aimes quelqu'un, tu aimes ton fils. Ce serait si facile. Tu n'as qu'à prendre ce que tu trouves et t'en aller si tu as envie de vivre et être heureuse avec ton fils près de toi. Il sera alors plein d'admiration pour toi. Voilà ce que je ferais si j'étais à ta place, bien entendu. » Émilie sourit à son frère. Un instant, elle regarda la porte. Elle avait peur. « Qu'entends-tu par là? Je dois prendre ce que je trouve ?»« Oui, tu fais quelque chose, tu agis. »« Encore faut-il que je trouve quelque chose ?»« Si on veut vraiment, on trouve toujours. » Cette fois, Émilie ne se contint plus. « Je ne te croyais pas capable de parler comme cela. J'aurais dû m'en douter. Je connais assez ta vie. » Elle partit dans la cuisine, claqua la porte vitrée avec force. Lesca courut au même moment se jeter sur son lit. « Émilie ! » cria-t-il. Elle ne l'entendit même pas. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah !» Il s'était recroquevillé sur lui-même. Comme il était gros et lourd, il avait l'air de ne pouvoir simplement se lever. « J'étouffe ! J'étouffe ! » cria-t-il encore. « Oh mon Dieu ! Que je souffre ! Que je souffre ! Émilie, viens !» Émilie ouvrit la porte. Elle posa sur son frère un regard perplexe. Il avait de grosses gouttes de sueur sur son front. Elle ne coulait pas, comme dans les maladies où les fonctions naturelles sont arrêtées. Émilie lui prit le pouls, puis elle s'efforça de le mettre dans une position plus confortable. « Qu'as-tu ?
La porte ! La porte ! » murmura-t-il.
Elle courut à la porte d'entrée, puis revint en disant qu'il n'y avait personne. Elle avait fini par croire qu'il appréhendait une visite. Il s'était redressé. Il avait essuyé le devant de son front. De grosses gouttes de sueur demeuraient intactes sur les tempes. « Est-ce que tu souffres ou est-ce que tu ne souffres pas ? » lui demanda-t-elle. « Je ne souffre pas. »«
Que signifie cette comédie, alors ?»«
Ce n'est pas une comédie, » dit Lesca en articulant difficilement. « Tu as claqué la porte. »«
Je te l'ai déjà dit. J'ai cru que j'allais avoir une crise. Je ne peux plus rien supporter. Ce bruit m'a fait tellement peur que j'ai cru. »
Il se leva, se recoiffa. « Tu as pris du lait pour moi ? » demanda-t-il. Ils s'assirent tous les deux à la table.
« Maintenant que tu es calme, » dit Émilie, « je vais te demander une chose. Pourquoi, depuis quelques jours, t'intéresses-tu tellement à moi ? Tu sais bien que je ne te demanderai jamais rien. »
Lesca frappa la table des deux mains avec une telle force qu'il lui sembla que des aiguilles lui perçaient le bout des doigts.
« Il ne manquerait plus que cela » hurla-t-il.
Émilie se leva d'un bond, courut dans sa chambre. Mais elle ne claqua pas la porte.